France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La fin du cauchemar pour Boualem Sansal, gracié par le président algérien après un an de détention. C'est l'Allemagne qui a obtenu la libération de l'écrivain franco-algérien. Emmanuel Macron remercie d'ailleurs ce soir son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. La diplomatie a primé, se félicite le gouvernement français. Page spéciale dans ce journal avec Sébastien Baer à Berlin et Nicolas Ballu à Paris. L'Assemblée vote à une large majorité la suspension de la réforme des retraites. 255 voix pour, 145 contre, un vote sans appel après des débats particulièrement animés. Le dossier de ce journal consacré aux archives filmées du procès des attentats du 13 novembre 2015. La manière de filmer un procès pour l'histoire a beaucoup évolué. Les restrictions sont de plus en plus nombreuses. En Ukraine, les Russes multiplient les assauts pour conquérir Pokrovsk. Nous retrouverons notre envoyé spécial Virginie Pironon sur la route de cette ville stratégique du Donbass. Boualem Sansal va donc retrouver la liberté dans les prochaines heures. L'écrivain franco-algérien a été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour des motifs humanitaires selon le communiqué officiel. Boualem Sansal, 81 ans, avait été arrêté à son arrivée à Alger il y a tout juste un an. Le 16 novembre 2024, la justice algérienne l'avait ensuite condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Il lui était reproché d'avoir affirmé que l'Algérie avait hérité de la colonisation française des régions ayant appartenu précédemment au Maroc. Alors avant d'évoquer la joie de son comité de soutien, revenons tout d'abord sur les conditions de cette libération réclamée par la France. Mais c'est en Allemagne que Boualem Sansal va être transféré pour y être soigné, car le président Tebboune a accédé à une requête de son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier. Nous sommes en direct de Berlin avec Sébastien Baer. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Sébastien, c'est donc l'Allemagne et non la France qui a obtenu la grâce de Boualem Sansal.
Oui, et ce qui a dénoué le conflit, c'est cette déclaration publique lundi, avant-hier, du président allemand Frank-Walter Steinmeier dont vous parliez. Un message destiné à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune pour demander la grâce de Boualem Sansal. Voici ce qu'écrit le président allemand. Un tel geste serait l'expression d'une attitude humanitaire et d'une vision politique à long terme. Alors pour appuyer sa requête, le président allemand a invoqué l'âge avancé et l'état de santé précaire de l'écrivain qui, on le sait, souffre d'un cancer. Frank-Walter Steinmeier met aussi en avant les bonnes relations bilatérales entre l'Allemagne et l'Algérie, des liens qui se sont encore renforcés après l'hospitalisation à Berlin pendant 2 mois fin 2020 du président algérien malade du Covid. Abdelmadjid Tebboune a confié que les médecins allemands lui avaient probablement sauvé la vie, un épisode qui a sans doute pesé dans la libération de Boualem Sansal. Dans ses pourparlers, dans ses négociations, l'Allemagne était considérée comme un intermédiaire solide, un médiateur qui travaillait discrètement en coulisses pour obtenir la libération de l'écrivain. À plusieurs reprises, des rumeurs avaient circulé sur un éventuel transfert de Boualem Sansal en Allemagne, mais sans jamais se concrétiser jusqu'à présent. Dans cette affaire, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français de l'époque, avait imposé une ligne dure, un bras de fer, une méthode contestée et finalement vaine qui a brusqué les autorités algériennes. C'est donc l'approche plus apaisée de la diplomatie allemande qui a fini par porter ses fruits.
Merci Sébastien Baer, correspondant en Allemagne. En France, Boualem Sansal aura pu compter sur la détermination sans faille de son comité de soutien qui estime ce soir que la grâce de l'écrivain met fin à l'arbitraire de son incarcération. Je vous propose d'écouter la première réaction du fondateur du comité, Arnaud Benedetti.
L'expérience d'une année de lutte pour la libération de Boualem Sansal nous a appris à être extrêmement prudents. Cette fois-ci, pour une fois, nous avions des éléments objectifs qui nous paraissaient sérieux. On pressentait en effet que quelque chose pouvait se passer. Si ça ne se passait pas rapidement, on se retrouvait dans une situation qui nous ramenait à une impasse. Pour nous, c'est un immense, vous imaginez, soulagement et un très grand bonheur de le savoir actuellement en partance pour l'Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que l'intervention allemande a été décisive et qu'il faut remercier indéniablement la diplomatie allemande. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit pris en charge par les médecins allemands. Il va être très certainement soumis à une batterie d'examens dans quelques heures et dans les jours qui viennent. Il faut le laisser se reposer, laisser reprendre ses esprits, laisser revoir sa famille dans un premier temps. Et évidemment, lorsqu'il reviendra en France, on sera très heureux de l'accueillir avec le comité de soutien pour fêter sa libération, qui est encore une fois un moment de pur bonheur pour tous ceux qui se sont mobilisés depuis un an pour Boualem.
Arnaud Benedetti, président du comité de soutien à Boualem Sansal, il répondait à Pierre Ropert. Venons-en à présent au volet politique de cette libération, salué à droite comme à gauche dans un bel élan unanime. En réalité, la gestion de l'affaire Boualem Sansal a profondément divisé la classe politique jusqu'au gouvernement, entre les partisans de la fermeté avec le régime algérien et les partisans du dialogue diplomatique. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
L'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau voulait faire pression sur l'Algérie pour obtenir la libération de Boualem Sansal, une méthode désavouée par son successeur Laurent Nunez.
Oui, je vous propose d'écouter comment l'annonce a été faite aux députés cet après-midi par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il était un peu plus de 14h15 en pleine séance de questions au gouvernement.
Vous me permettrez de réagir au nom du gouvernement de la République en exprimant notre soulagement à l'annonce des autorités algériennes d'avoir gracié Boualem Sansal et nous souhaitons qu'il puisse rejoindre ses proches au plus vite, être soigné et je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme.
Une méthode faite de respect et de calme. Ce sont aussi les mots d'Emmanuel Macron à l'instant à Toulouse. Signification, eh bien, le gouvernement a changé sa façon de faire dans l'ensemble du dossier des relations franco-algériennes. C'est dû notamment au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, celui-là même qui a remplacé Bruno Retailleau, le partisan de la ligne dure, dans les déclarations et dans les faits. Là où le président du parti Les Républicains fustigeait la diplomatie des bons sentiments, je cite, et regrettait récemment que sa ligne de fermeté n'ait jamais été assumé par l'Élysée, eh bien son successeur, Laurent Nunez, a revendiqué une rupture au moins dans la forme. Ceux qui font croire que le bras de fer et la méthode brutale sont la seule solution se trompent, avait-il déclaré dans une interview au journal Le Parisien, c'était le 1er novembre dernier. Ça ne marche jamais, disait-il. Il avait pris en exemple le gel de la coopération migratoire et le refus croissant des autorités algériennes de récupérer ses ressortissants sous OQTF, par exemple. Laurent Nunez avait d'ailleurs pris ses distances par rapport au texte voté par les députés appelant à dénoncer les accords migratoires de 1968 avec l'Algérie. Sa nomination au ministère de l'Intérieur avait, semblait-il, été bien perçue par Alger et un déplacement à Alger serait d'ailleurs envisagé.
Nicolas Ballu, merci. La libération de Boualem Sansal ne doit pas nous faire oublier qu'il reste encore un Français incarcéré en Algérie. Le journaliste Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison pour avoir rencontré le responsable d'un club de football, par ailleurs dirigeant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Christophe Glaise doit être rejugé en appel début décembre. L'Assemblée a donc validé la suspension de la réforme des retraites après près de 3 heures de débats pour le moins animés. Le Palais Bourbon s'est prononcé sur cette exigence des socialistes posée comme condition indispensable à la survie du gouvernement Lecornu, 255 voix pour, 146 voix contre. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
En direct de l'Assemblée, Rosalie, ce résultat est le fruit d'alliances de circonstances qui ont de quoi surprendre.
Oui, les socialistes jubilent. Cette suspension, c'est leur grand marqueur des négociations et elle passe très largement grâce au vote pour du PS, donc des écologistes, mais aussi et surtout du Rassemblement National. La chef du groupe RN, Marine Le Pen, qui dénonce l'incohérence des autres.
Renaissance est contre la suspension, ils vont voter pour. LFI est pour, ils vont voter contre. Les communistes sont pour, ils vont voter contre ou peut-être s'abstenir. LR est contre, ils vont voter pour.
La moitié de ce qu'elle dit est faux, mais pas pour les insoumis, contre la réforme et contre sa suspension, Mathilde Panot, la patronne des troupes LFI.
Voter pour le décalage de la réforme des retraites, c'est voter pour la retraite à 64 ans. Personne n'est dupe.
Des voix insoumises mêlées à celles des communistes et pour des raisons bien différentes à celles de la droite, Horizon, UDR ou de la moitié des LR de Laurent Wauquiez.
La vérité est que dans un pays qui est ruiné, suspendre la réforme des retraites est illusoire.
Dans le bloc central où l'on n'est toujours pas pour la suspension, on a choisi majoritairement et dans la douleur de s'abstenir. À la tête du groupe macroniste Ensemble, Gabriel Attal se justifie.
Ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur, mais c'est avec lucidité. Nous sommes lucides sur le fait que cette suspension ne sera pas une bonne nouvelle pour l'économie française ou pour le budget de la France. Mais nous ne voulons pas nous mettre en travers du compromis.
Quelques dissidences dans les groupes, quelques consignes contournées, mais la suspension est donc validée par les députés. De là à ce qu'elle devienne effective, on n'y est pas. Au Sénat, où doit se poursuivre son long chemin, la droite majoritaire l'a déjà dit, elle n'en veut pas.
Rosalie Lafarge en direct de l'Assemblée avec Jérémy Thuil pour les moyens techniques. Le dossier de ce journal est consacré aux archives judiciaires des attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et Paris, dont on commémorera demain les 10 ans. En 1985, Robert Badinter, alors ministre de la Justice, avait fait adopter une loi qui permet de filmer pour l'histoire les grands procès. Il faut savoir qu'appareils, photos et caméras étaient bannis des prétoires depuis les années 50. Mais grâce à cette loi Badinter, les procès de Klaus Barbie, de Maurice Papon et de Paul Touvier ont ainsi été enregistrés. Chloé Leprince, bonsoir.
Bonsoir.
Le procès des attentats du 13 novembre a lui aussi été filmé entre septembre 2021 et mai 2022. Mais le cahier des charges de la réalisation, Chloé, était devenu nettement plus contraignant.
Oui, et l'historienne Sylvie Lindeberg, à qui on doit un livre précieux sur V13, le procès du 13 novembre, archéologie d'un procès chez Verdier, estime même que pour ce procès, c'est finalement moins à des archives filmées du procès qu'on a affaire qu'à une archive de la manière dont la justice se filme elle-même. Une série de glissements ont fini par faire de ces archives un objet de lutte, parce que l'esprit de la loi, pas très bavarde, c'est un filmage neutre, des caméras fixes notamment. Or, la magistrature l'a interprété de façon de plus en plus restreinte, au point que V13, c'est un peu l'anti-procès Eichmann filmé à Jérusalem par le réalisateur Léo Hurwitz. Et pourtant, Badinter avait assisté à ce procès en 1961 et valorisé les champs contre champs d'Hurwitz. Mais depuis le procès Barbie, première archive filmée en 1987, la manière de filmer n'a cessé de se figer. Le réalisateur a même disparu en chemin, remplacé par des techniciens d'une partition écrite à l'avance, comme dit Sylvie Lindeberg. Aux Archives nationales, la conservatrice Martine Sinblima-Baru est la référente des procès filmés.
Quand on regarde les archives du procès de Klaus Barbie, on voit des choses qu'on ne voit plus du tout maintenant. On voit la physionomie, on voit des gros plans, ce qui maintenant est complètement proscrit. Donc il y a aussi une grande liberté. Pour Touvier, c'est pareil, on voit encore beaucoup de choses. Pour Papon, même si les personnes qui ont fait les films vous disent que oui, ils devaient s'engager à respecter un cahier des charges ou ils ne prendraient pas d'initiative, etc. Bon, il y a encore des fondus enchaînés. Et puis en fait, petit à petit, la caméra se fiche complètement.
Or, il n'y a pas de rush. Ces archives sont tournées, montées en direct, comme on dit. Depuis 2010, c'est le service de communication du ministère qui régit le tournage. Et l'archiviste négocie beaucoup avec la chancellerie, par exemple pour obtenir que chaque séquence commence à minima par un plan d'ensemble. Car c'est le président qui distribue la parole et ouvre les micros. Or, les caméras sont calées sur ces micros et ça donne une extrême absence de hors-champ. Et puis, outre le travail corporel de la parole, c'est carrément la dimension pénale qui disparaît à l'image. Martine Sinblima-Baru fait remonter au procès AZF de 2009 ce qu'elle appelle un recadrage.
Les gros plans sont proscrits. Ça veut dire qu'on ne doit filmer que la personne qui parle. Et donc, il n'y a plus de champ contre champ, il n'y a plus rien, il n'y a plus de hors-champ. Il n'y a pas de restitution du débat contradictoire. Parce qu'à partir du moment où on a une mosaïque de personnes qui parlent, on n'est pas dans le contradictoire, on est dans une juxtaposition de prise de parole. Mais en fait, on ne sait pas. Oui, le président, il a posé une question, et que fait le président pendant ce temps-là? Que font les accusés? C'est quand même eux qui sont mis en accusation, donc c'est leur sort dont on décide. C'est important qu'on les montre.
Alors Chloé, on est loin d'une captation brute destinée au travail de recherche. Par exemple, une dizaine de chercheurs ont déjà consulté ces archives.
Oui, une recherche collective est en cours, notamment celle du collectif Prométhée. Et puis plusieurs thèses ont démarré, dont celle de Roman Gors, qui travaille notamment sur ce décalage entre le procès auquel elle a assisté à l'audience et celui qu'elle retrouve archivé en vidéo. Quand je l'ai appelée, elle revisionnait justement la journée du 15 mars 2022, marquée à l'époque par un incident d'audience entre l'avocat de Salah Abdeslam et le président Périès, Roman Gors.
Sauf que cet échange se fait hors micro pour l'avocat. Donc là, à l'archive, c'est complètement inaudible. On n'entend pas du tout les réponses de l'avocat, on entend uniquement celles du président, qui ne comprend pas tellement ce qui s'est passé, mais on entend des applaudissements du public.
Un dossier préparé par Chloé Leprince, merci à vous. Et puis les archives du procès V13, ce sont aussi ces pièces portées au dossier qui comptent des images et des sons d'archives du Bataclan, par exemple. Vous reviendrez demain, Chloé, sur le statut de ces archives dans nos journaux. C'est d'ailleurs une journée spéciale que France Culture vous proposera demain en mémoire du 13 novembre 2015. C'est l'un des symboles de la résistance acharnée de l'Ukraine à l'envahisseur russe, mais il pourrait tomber dans les prochains jours. Dans le Donbass, les soldats du Kremlin sont sur le point de conquérir Pokrovsk. Voilà plus d'un an que Moscou essaye de s'emparer de cette ville de 60 000 habitants avant l'invasion, verrou stratégique pour les forces armées ukrainiennes. La Russie jette en ce moment toutes ses forces dans la bataille, profitant de conditions climatiques favorables. Un brouillard épais qui ne permet pas aux drones ukrainiens de freiner cette avancée. Bonsoir Virginie Pironneau.
Bonsoir.
Vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine avec Marc Garvenès et Yachar Fazilov. Depuis hier, Virginie, vous essayez étape par étape de vous approcher de cette ville de Pokrovsk. Et ce qui vous frappe en chemin, c'est à quel point la situation sur les routes ukrainiennes est devenue dangereuse.
Exactement, et pour nous rapprocher de Pokrovsk, nous avons choisi d'arriver par le nord. Et ce qui nous a frappé cet après-midi sur la portion de route située entre les villes d'Izium et de Sloviansk, c'est la présence de filets anti-drones au-dessus de la route, un peu comme un tunnel sur 45 km. L'objectif, c'est de stopper les drones FPV qui visent les voitures. Ils s'enroulent dans les filets. Sergueï est dans l'armée ukrainienne. Ce poseur de mines vient tout juste de faire le trajet.
Les drones qui sont utilisés en ce moment sont des drones à fibre optique. Avant, ils pouvaient faire une distance de 15, puis à 20, puis à 30, et maintenant jusqu'à 60 km.
Des drones qui frappent et tuent, donc de plus en plus en profondeur. Uniforme kaki, Petro militaire lève les yeux au ciel quand il entend parler de Pokrovsk. Il déconseille aux civils de prendre la route.
Si c'est là que vous vous apprêtez à partir, moi je ne vous le conseille pas. Il ne faut pas s'approcher. Sinon il y aura des conséquences. Parce que les Russes ne font pas la différence. Voitures civiles, de militaires, de journalistes. Ils peuvent taper n'importe quelle voiture.
Sur la route, certains véhicules, en particulier militaires, disposent d'importants systèmes de brouillage avec de grosses antennes aux formes arrondies sur le toit. Pour tous les véhicules, il est conseillé de rouler à plus de 120 km/h et de ne surtout pas s'arrêter.
Virginie Pironon avec Marc Garvenès et Yachar Fazilov, envoyés spéciaux de Radio France en Ukraine. Direction le Brésil à présent pour le coup d'envoi du sommet des peuples organisé à Belém en marge de la COP30, la conférence de l'ONU sur le climat. Des milliers de participants, essentiellement des peuples autochtones et la société civile qui espèrent faire entendre leurs revendications mais sans trop y croire. Ils sont arrivés en bateau sur le fleuve qui traverse Belém. C'est un reportage de notre envoyé spécial Véronique Robérotte.
Quand les décideurs et délégués de la COP sont arrivés en avion ou en jet privé à Belém, eux ont choisi le bateau pour se rendre au sommet des peuples. Environ 5000 défenseurs de l'Amazonie en majorité. Le mode d'expression n'est pas le même non plus qu'à la COP. Chants militants et danses s'enchaînent sur les barges pour dénoncer pêle-mêle la déforestation, les terres spoliées, l'extraction minière, les barrages, l'agro-business et les pesticides qui ravagent leur territoire. Sur une banderole géante, à l'entrée du bateau, on peut lire « L'agro-business ne remplit pas nos assiettes ». Autrement dit, le soja ne nourrit pas les vrais gens mais les animaux. Et ça cache la forêt, explique Jessica Kumarwara, venue en tenue traditionnelle, coiffée et parure colorée. Chez elle, le fleuve Tapajós s'est ravagé par l'agro-business. Ils ont élargi le fleuve, dit-elle, pour faire passer d'énormes bateaux remplis de monocultures de soja. Les poissons sont en train de mourir, dit-elle. Nous, c'est une forêt vivante et debout que l'on défend. Ce membre de la tribu Kayapo, celle du cacique Rouani, explique lui que non. Ce n'est pas la COP qui va trouver des solutions au changement climatique. La forêt est tout pour ma tribu. Nous savons la préserver sans la détruire. Nous voulons qu'on nous reconnaisse enfin des droits sur nos terres. Tous vont se retrouver pendant plusieurs jours au sommet des peuples avant une grande manifestation prévue samedi prochain dans les rues de Belém.
Véronique Robérotte à Belém. Au même moment à Paris, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, publiait aujourd'hui son rapport annuel avec trois scénarios sur la manière dont pourrait évoluer la demande et l'offre énergétique dans les décennies à venir, selon les choix politiques plus ou moins ambitieux de nos dirigeants en matière de lutte contre le changement climatique. Un constat, Camille Magnard, quel que soit le scénario retenu, l'agence confirme qu'on est loin de tenir les engagements pris avec l'accord de Paris de 2015.
que l'on se base sur les politiques actuelles, scénario le moins ambitieux, ou bien sur les objectifs affichés par nos dirigeants, on est très au-dessus de la trajectoire qui permettrait de contenir la hausse des températures à plus 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. On est même à plus 3 degrés si on garde le cap actuel. Le monde d'ici 2035 va connaître une explosion de sa consommation en énergie et c'est la demande en électricité qui va particulièrement augmenter. En 10 ans, prédit l'AIE, il va falloir produire en plus autant que ce que les pays les plus riches consomment actuellement. On entre dans l'âge de l'électricité, résume l'agence, avec comme moteur l'énergie solaire, l'éolien et le grand retour du nucléaire. La demande en électrons va également être tirée par l'essor de l'intelligence artificielle et des centres de données informatiques, les besoins croissants également en climatisation et l'électrification massive des transports. Même si en la matière, le pétrole n'a pas dit son dernier mot, sa consommation au niveau mondial ne devrait pas décroître avant 2030 comme on l'espérait il y a encore 2 ans. Tout dépendra, conclut l'AIE, des choix politiques qui sont faits aujourd'hui, en particulier les incitations à se passer des moteurs thermiques. Mais dans tous les cas, les émissions planétaires de CO2, conséquence de notre dépendance tenace au pétrole et au gaz, ne devraient pas se stabiliser ni décroître avant 2050.
Explication signée Camille Magnard. Le temps demain, la douceur hors norme se maintient sur tout le pays. Un ciel couvert et pluvieux sur de nombreuses régions. Les températures minimales iront de 8 à 13 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 15 et 27 degrés de la Manche aux Pyrénées-Atlantiques. C'est la fin de ce journal. Préparé ce soir avec Alison Bicrobec à la technique Jean-Guy Lamège.